D'accord. Décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait une plongée assez unique.
Ouais, une vraie capsule temporelle en fait.
Exactement. Ou une dimension parallèle, au choix. C'est vraiment une fenêtre grande ouverte sur une vision du monde qui se situe à des années-lumière de tout ce qu'on entend au quotidien.
Et la source qu'on utilise aujourd'hui est très spécifique.
Absolument. On se penche sur une source unique. C'est une entrevue publiée très récemment, le 23 février 2026. Elle a été réalisée par un certain Augustin J.
C'est ça, et c'est tiré des coulisses d'une émission ou d'une organisation qui s'appelle Serviam.
Tout à fait. Et la personne au centre de cette entrevue, celui qui répond aux questions, est un jeune homme d'une trentaine d'années qui se fait appeler Théobald.
Et la mission de notre décryptage aujourd'hui, c'est de cartographier la structure interne de cet individu. Théobald se définit lui-même comme un militant catholique thomiste.
Ce qui n'est pas un profil très commun de nos jours, hein.
Non, clairement pas. Le but, c'est de comprendre comment se construit vraiment de l'intérieur une architecture intellectuelle, philosophique et politique qui rejette fondamentalement les normes de notre époque.
On plonge dans la salle des machines d'une idéologie très, très spécifique.
Ouais, mais juste avant de mettre les mains dans le cambouis, il faut absolument qu'on pose un cadre strict pour cette discussion.
Vas-y, je te laisse planter le décor, parce que c'est vrai que le texte est pour le moins, disons, chargé.
C'est le mot. Le texte source qu'on analyse aujourd'hui contient des éléments hautement politisés et profondément religieux. On y trouve des critiques frontales de la démocratie, des appels à la constitution d'un peuple défini comme homogène et un rejet total du système étatique. Donc, il doit être absolument clair pour quiconque écoute cette analyse que nous ne prenons aucun parti.
C'est crucial de le rappeler.
Nous n'approuvons pas, nous ne validons pas et nous ne sommes pas là non plus pour faire le procès des points de vue présentés.
Exactement. Notre seul rôle, c'est le rapport impartial.
Voilà. On rapporte le contenu pour comprendre les idées véhiculées par la source originale. L'objectif, c'est uniquement de favoriser l'esprit critique, sans aucune complaisance ni parti pris d'un côté ou de l'autre.
Le cadre est posé. Alors plongeons directement dans le vif du sujet avec le portrait de ce Théobald.
Allons-y.
Dès les premières lignes, il donne des éléments biographiques très précis, presque comme s'il déclinait un matricule en fait. Il a une trentaine d'années et il se décrit, je cite, comme un Gaulois de souche de la côte nord-ouest.
Ce qui est déjà une terminologie très chargée.
Ah bah le décor identitaire est planté sans aucune ambiguïté. Mais au-delà de cette étiquette, c'est son parcours intellectuel qui capte vraiment l'attention. Il explique qu'il a été baptisé enfant, ce qui est un parcours assez classique en France, mais que le véritable électrochoc, son véritable éveil, ne s'est produit qu'au début de sa vie d'adulte.
Et cet électrochoc, curieusement, ne commence pas par une grande révélation mystique, mais par une démarche rationnelle.
C'est-à-dire ?
Eh bien, il explique avoir d'abord découvert ce qu'il appelle les valeurs véritables et la fameuse loi naturelle. Et ça, c'est vraiment la clé de voûte de tout son système.
La loi naturelle, en gros, ce n'est pas juste le fait d'aimer les arbres et les oiseaux.
Ah non, pas du tout. Dans la philosophie thomiste à laquelle il adhère, la loi naturelle, ce n'est pas une vague idée romantique. C'est le concept selon lequel il existe un ordre moral absolu, objectif, qui est voulu par le Créateur et qui est littéralement encodé dans la nature humaine et dans l'univers.
Pour imager la chose, c'est un peu comme une gravité morale objective.
C'est une très bonne métaphore.
De la même manière qu'on ne peut pas décider que la gravité physique n'existe plus sans s'écraser lamentablement au sol, bah pour lui, on ne peut pas défier cette loi naturelle morale sans que la société finisse par s'effondrer sur elle-même.
Ouais, c'est exactement sa vision. Et ce qui est intéressant dans sa progression, c'est qu'il dit que la foi catholique est venue ensuite pour couronner cette découverte philosophique.
Donc la raison d'abord, la foi ensuite.
C'est ça. Il part de la raison, du constat de cet ordre naturel objectif, pour remonter vers le spirituel. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi qui se veut logiquement déduite.
Et pour nourrir cette mécanique intellectuelle, il s'impose un régime de vie qui est d'une austérité absolue.
Le mot est faible.
L'entrevue aborde ses lectures, et Théobald avoue rejeter presque totalement la fiction.
Aucune fiction.
Attends, aucune fiction ? Pas de roman du tout.
Même pas un petit polar pour se détendre le soir.
Rien.
Ça doit être un mode de vie incroyablement rigide. Quel est le but recherché par une privation pareille? Elle doit être consacrée à la recherche exclusive de la vérité objective.
Donc la fiction, c'est vu comment?
Comme un obstacle. L'imaginaire, le divertissement, tout cela est perçu au mieux comme une perte de temps et au pire comme une distraction dangereuse qui l'éloigne de la réalité ultime.
D'accord. Et à la place, il lit quoi, du coup?
Il s'immerge dans des lectures spécifiques. Il cite Jésus-Christ, les écrits des saints et de manière générale tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre ce qu'il nomme le bien commun et ce fameux droit naturel.
Et quand on regarde les auteurs qu'il consomme pour se former, on est très très loin des best-sellers de développement personnel.
Ah, ça oui.
Il cite des figures de la pensée thomiste, c'est-à-dire les héritiers intellectuels de saint Thomas d'Aquin. Il mentionne spécifiquement l'abbé Roger Vernot et le père de Tonquedec. Avouons-le, ce ne sont pas exactement des noms qui font vibrer les algorithmes des réseaux sociaux en 2026.
Non, clairement pas. Ce sont des intellectuels du XXe siècle, des piliers de la scolastique et du thomisme classique.
Le père Joseph de Tonquedec, c'était qui exactement ?
C'était un jésuite, un spécialiste très pointu de la critique de la philosophie moderne. Et Roger Vernot, de son côté, était un maître de l'épistémologie, donc la science de la connaissance.
Pas vraiment de la lecture de plage, hein.
Pas du tout. Et en se plongeant dans ces textes, qui sont extrêmement ardus, denses et structurés, Théobald ne cherche pas simplement à se cultiver. En fait, il s'entraîne.
Il s'entraîne, ouais.
Il se forme à une critique systématique des fondations mêmes de la pensée moderne.
Tu sais, en lisant cette partie, une image très claire m'est apparue.
Laquelle ?
Il explique avoir passé des centaines d'heures à étudier la philosophie, souvent seul, tout en suivant quelques cours pour se structurer. Ça fait vraiment penser à un artisan.
Un artisan ?
Ouais, un artisan autodidacte, isolé dans son atelier, qui apprendrait patiemment à forger ses propres outils. Mais là, le métal, ce sont des concepts, des syllogismes.
C'est une belle image.
Il forge des arguments dans un but précis, être capable de déconstruire, pièce par pièce, ce qu'il appelle les fausses philosophies du monde moderne. C'est vraiment un travail de forgeron de l'esprit, minutieux et implacable.
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ce travail de forgeron intellectuel l'amène à poser un diagnostic sans appel sur le monde extérieur.
Le diagnostic est sévère.
Très. S'il a besoin de forger de telles armes, c'est justement parce qu'il estime que la société contemporaine est profondément malade. Les termes qu'il emploie sont radicaux. Il parle d'une déformation de l'intelligence et d'un désordre général.
C'est pas juste un problème politique pour lui.
Non, pas du tout. Pour Théobald, si notre époque traverse des crises, ce n'est pas à cause d'une mauvaise politique fiscale ou d'un manque de croissance. Le mal est beaucoup plus profond. C'est le logiciel même de la pensée humaine qui a été corrompu.
L'intelligence moderne se serait déconnectée de la fameuse loi naturelle dont on parlait.
Exactement.
Et face à une maladie aussi grave, on s'en doute, le remède qu'il propose n'a rien d'une pilule miracle facile à avaler.
Oh que non.
Quand l'intervieweur, Augustin, lui demande quel conseil il donnerait à la jeunesse, sa réponse est aux antipodes de la culture de la gratification immédiate.
C'est le moins qu'on puisse dire.
En gros, il prône un mode de vie qui ferait passer un camp d'entraînement militaire pour une colonie de vacances, quoi.
Ouais, il exige une discipline totale, spirituelle, intellectuelle et physique.
Il parle du sens du sacrifice, du détachement de soi-même pour se mettre au service de ce fameux bien commun. Donc on est très très loin du scrolling frénétique sur les écrans. C'est un peu le moine guerrier du 21e siècle.
Il y a de ça. Et c'est d'autant plus flagrant quand il insiste lourdement sur la nécessité vitale de préserver des temps de solitude et de silence.
Le silence, aujourd'hui.
Oui. Dans notre environnement actuel, qui est saturé de bruit, d'images, de notifications permanentes, lui, il érige le silence en forteresse. Pour lui, c'est le seul espace où l'homme peut véritablement apprendre à connaître son créateur.
Et par extension, se connaître lui-même.
Tout à fait. C'est une ascèse radicale. Il confie d'ailleurs un regret assez touchant à ce sujet dans l'entrevue.
Ah oui, sur sa propre jeunesse.
Voilà. Il estime que ce qui lui a cruellement manqué, c'est justement une instruction religieuse et intellectuelle exigeante dès le départ. Il ne veut pas que la nouvelle génération perde le même temps que lui.
Mais de tous les conseils qu'il lance à cette jeunesse, il y en a un qui, personnellement, m'a fait tiquer. Il détonne complètement.
Lequel ?
Son arme secrète, le remède absolu contre la déformation de l'intelligence, c'est d'étudier la logique d'Aristote.
Ah oui, ça, c'est central.
Il admet lui-même que c'est aride et laborieux au début, évidemment, mais il en fait la priorité absolue pour quiconque prétend vouloir redresser la société.
Et pour asseoir ce conseil, il ne s'appuie pas sur son propre avis, il convoque directement saint Thomas d'Aquin.
Ah, l'argument d'autorité ultime dans son référentiel.
Exactement. Il cite un passage très spécifique du prologue, du commentaire aux secondes analytiques d'Aristote.
C'est la citation exacte, Timbert.
Oui, et elle est incontournable pour comprendre sa démarche. Je lis. La logique ne fait pas partie des sciences particulières, mais elle est l'instrument de toutes, puisqu'elle dirige l'acte même de la raison par lequel l'homme procède dans toutes les sciences. Et c'est pourquoi il faut l'apprendre en premier.
Oh, c'est fort! L'instrument de toutes, en clair, ça veut dire que sans la logique, on ne peut littéralement rien faire de valable.
Bah c'est ça, il faut bien mesurer l'importance de ce concept pour lui. La logique aristotélicienne n'est pas une simple matière optionnelle qu'on étudierait pour briller dans un dîner mondain.
C'est pas de la culture générale.
Non, c'est le système d'exploitation fondamental de la pensée humaine.
Oh, j'aime bien cette comparaison informatique.
Bah, si ton système d'exploitation est vérolé, toutes les applications que tu vas faire tourner dessus, que ce soit la politique, l'économie, la morale, vont forcément planter.
C'est logique, si j'ose dire.
Donc, vouloir réformer la société par des lois ou des élections, sans avoir d'abord rééduqué les esprits à penser correctement, selon ses règles objectives, c'est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. Sans cette rectitude de la raison, le combat est perdu d'avance.
C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Mmh.
Parce que cette théorie philosophique très abstraite a des conséquences pratiques, des conséquences politiques qui sont carrément explosives.
Totalement.
À un moment, Augustin, l'intervieweur, lui pose la question inévitable. Est-ce que, selon lui, la solution passera par le vote? Est-ce qu'il suffit d'élire les bonnes personnes?
Et là, la réponse de Théobald claque comme un couperet.
C'est un non majuscule.
Zéro ambiguïté, il ne croit absolument pas au système électoral. Et il sort deux arguments massifs pour justifier ce rejet total de la démocratie telle qu'on la pratique.
Décortiquons ces deux arguments. Le premier...
Le premier argument, c'est ce qu'on pourrait appeler le filtre étatique. Théobald fait remarquer que pour se présenter à une élection à un haut niveau, les candidats doivent être validés par les institutions du système français actuel.
Oui, le système des parrainages, le financement, la validation institutionnelle.
Voilà. Or, il considère ce système étatique, je cite ces mots, comme profondément antichrétien et contre la loi naturelle même.
En gros, c'est l'analogie du casino truqué.
Comment ça ?
Bah, pourquoi s'asseoir à une table de jeu si tu sais pertinemment que les règles, le croupier et même les cartes sont conçus par un système dont le but même est opposé à tes valeurs?
Ouais.
Participer, ce serait cautionner l'arnaque.
C'est exactement l'idée. Mais son deuxième argument va encore plus loin.
Ah oui, il attaque le concept de la masse.
Il attaque le principe même de la démocratie universelle. C'est l'argument de l'incapacité de la masse.
Ce qui fait grincer des dents en général.
Forcément! Il explique que prendre des décisions politiques à l'échelle d'une nation entière, c'est d'une complexité phénoménale. Selon ses propres termes, ça demande une intelligence synthétique très développée et une culture politique et historique hors du commun.
Et donc, logiquement, avec son logiciel de pensée, il en déduit qu'il est absurde de demander à la totalité de la population de trancher des questions d'une telle technicité.
C'est ça.
Il estime que le citoyen moyen n'a tout simplement pas le recul ni la compréhension globale nécessaire pour ces enjeux macroscopiques.
Ce n'est pas forcément du mépris dans son esprit, c'est un constat de fait.
Du coup, pour lui, confier le pouvoir à la masse via le suffrage universel, c'est le meilleur moyen de livrer le pays aux manipulateurs, aux démagogues, à ce qu'il appelle la caste dirigeante qui est experte en subversion.
C'est un rejet d'une cohérence implacable avec son postulat de départ. S'il n'y a qu'une vérité objective, accessible uniquement par une logique rigoureuse et un long entraînement, alors confier la décision à l'opinion fluctuante et émotionnelle de la majorité, c'est une aberration philosophique.
D'accord, donc il rejette le système de A à Z. Le constat est clair.
Mm.
Mais alors s'il pouvait raser tout ça et reconstruire, à quoi ressemblerait sa cité idéale?
L'entrevue l'amène justement sur ce terrain.
Et le tableau qu'il dresse de la France idéale est aux antipodes absolus de la République moderne.
Complètement.
Déjà, le premier pilier est purement théologique. Il veut un pays où Jésus-Christ règne.
Et il précise bien que ce n'est pas juste une affaire privée de spiritualité personnelle. Christ doit être le maître dans la vie publique.
Le logiciel politique doit être subordonné au logiciel religieux.
Ensuite, il évoque la composition même de la société. Il espère un peuple qu'il décrit comme homogène.
Ce qui est un mot très lourd.
Très lourd. Alors, il ne fait pas un long discours théorique là-dessus, dans cette courte entrevue, mais dans le lexique de ce courant de pensée, l'appel à l'homogénéité marque un rejet très clair de la société plurielle ou multiculturelle.
L'idée sous-jacente, si je comprends bien, c'est qu'une nation ne peut pas avoir de cohésion véritable que si ses membres partagent la même matrice culturelle, religieuse et philosophique.
C'est exactement ça. L'hétérogénéité est vue comme un facteur intrinsèque de division et de faiblesse.
Le troisième aspect de son idéal m'a semblé presque paradoxal au début.
Lequel ?
Bah, il insiste énormément sur le localisme. Il veut une vie locale très développée, en rappelant que la vie quotidienne, la vie concrète, ça se vit à échelle humaine.
C'est vrai que ça contraste avec l'idée d'un grand règne national.
Mais en y réfléchissant, ça fait totalement sens avec sa critique précédente de la démocratie. S'il estime que la gestion d'un État-nation de 70 millions d'habitants est une tâche impossible pour une intelligence normale, la solution de repli, c'est de redescendre au niveau du village, de la province.
Là où les choses sont palpables.
Voilà. Là où les responsabilités sont directes, visibles par tous, et où l'impact des décisions est immédiat.
C'est le principe de subsidiarité poussé à son maximum. Mais face à ce projet gigantesque, qui nécessiterait, on s'en doute, un basculement civilisationnel complet,
ouais.
L'attitude de Théobald concernant l'avenir est assez surprenante.
Comment ça ?
Avec une pensée aussi martiale, on pourrait s'attendre à un plan d'action militaire ou à un agenda politique précis, étape par étape, pour prendre le pouvoir. Mais pas du tout.
Ah, c'est vrai.
Il adopte une posture d'abandon. Il s'en remet totalement à la providence divine. Il dit textuellement « Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve ».
Oui, il explique qu'il vit au jour le jour. Presque comme un soldat dans une tranchée qui attend les ordres, en fait. Il n'exclut aucun scénario. La société peut s'effondrer demain matin, comme elle peut tenir encore un siècle. Lui, il se tient juste prêt à faire face à l'inattendu.
Et la seule boussole qu'il garde fermement en main dans cette attente, c'est une exigence morale absolue envers lui-même.
Le fameux rejet viscéral du mensonge et de l'hypocrisie.
Voilà. Il préfère vivre en rupture totale, quasi hermétique, avec son époque, plutôt que de faire le moindre petit compromis avec des principes qu'il juge fondamentalement faux.
Alors, que signifie tout cela ?
Bonne question.
Si on prend un peu de hauteur sur cette entrevue, qu'est-ce qu'on observe ? On a sous les yeux le plan détaillé d'une pensée traditionnaliste militante qui est extrêmement robuste.
Très structuré.
Ce n'est pas un agrégat de colère politique aléatoire qu'on trouve sur Internet. C'est un système fermé, autosuffisant, qui fusionne une foi catholique stricte avec la logique aristotélicienne et l'automisme.
C'est ça.
Et une fois que l'on accepte ces prémices de base, c'est-à-dire la loi naturelle objective et la nécessité d'une raison parfaitement ordonnée, eh bien, son rejet de l'État moderne, sa critique de la démocratie de masse et sa vision de la cité idéale, tout ça en découle avec une évidence mathématique.
Et c'est exactement pour cela qu'il est crucial de prendre le temps d'étudier ce genre de document aujourd'hui.
Tout à fait.
Dans un monde saturé d'informations, où les débats publics se résument très souvent à des slogans de quelques secondes, prendre le temps de décortiquer l'architecture interne d'une vision du monde, même si elle se situe radicalement à la marge de nos normes, c'est un véritable exercice d'hygiène intellectuelle.
Ça permet de sortir de nos bulles.
Exactement. Cela nous permet de voir au-delà de la surface des discours politiques. Comprendre que pour certains, le problème n'est pas de savoir pour qui voter, mais de remettre en cause l'outil conceptuel avec lequel nous pensons le monde, ça aiguise notre propre esprit critique face à n'importe quelle idéologie.
Et ça nous pousse à questionner nos propres fondations.
D'ailleurs, cette source nous laisse, peut-être malgré elle, avec une interrogation vertigineuse qui dépasse très largement le cadre du militantisme personnel de Théobald.
Une interrogation sur la démocratie.
Oui. Mettons de notre côté ces solutions radicales et religieuses. Son diagnostic initial sur la démocratie universelle repose sur un argument de poids. La gestion d'une nation moderne exige une intelligence synthétique rare.
Et c'est un concept fascinant.
Totalement. Quand on regarde les défis titanesques qui s'abattent sur nous en ce moment, l'intelligence artificielle qui bouleverse le marché du travail, les crises écologiques globales qui demandent de comprendre des modèles climatiques extrêmement ardus, l'ingénierie financière qui dicte la vie des États, nos sociétés atteignent un niveau de complexité qui donne franchement le vertige.
La machine est presque trop grosse pour l'opérateur humain.
La question devient alors, comment une démocratie survit-elle à cette complexité ? Comment s'assurer que les citoyens disposent réellement de la bande passante cognitive et des outils intellectuels nécessaires pour diriger leur propre destin ?
Sans finir par abdiquer ce pouvoir entre les mains d'une élite technocratique, on imagine.
Rythme. Comment forger au niveau d'un pays tout entier cette fameuse intelligence synthétique collective dont on a cruellement besoin ?
C'est un sacré défi.
C'est peut-être le plus grand test de notre époque, en fait. Une question redoutable qui reste pour chacun d'entre nous entièrement ouverte.
Et c'est sur cette réflexion vertigineuse que se termine notre exploration du jour.